Chapitre 40. La nuit du meurtre. Mount Pleasant, New Hampshire. 2 avril 1999. À 20h, en quittant la station-service, Alaska n'eut pas à aller très loin pour rejoindre son dîner romantique. Elle se rendit à Gray Beach et gara sa décapotable bleue sur le parking de la plage. Constatant qu'il n'y avait pas d'autre véhicule, elle s'inquiéta. Où était Patricia? Elle voulut lui téléphoner, mais elle n'avait pas de réseau. Elle finit par descendre de sa voiture et fit quelques pas pour essayer de capter un signal. Sans succès. Elle se demanda si Patricia était déjà sur la plage et cria son nom. Patricia lui répondit en contrebas. Elle était au bord du lac. Alaska se précipita alors sur le sentier pour la retrouver. En arrivant sur la grève, Alaska s'arrêta net, émerveillée. Patricia lui avait organisé un pique-nique romantique. Sur une couverture étaient disposés des mets délicats dont Alaska raffolait. Dans un seau, une bouteille de champagne restait au frais. Une dizaine de grosses bougies assuraient l'éclairage. Alaska se précipita vers Patricia et l'embrassa.
« Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau !»
dit Alaska en admirant le décor.
« Je t'attendais sur le parking. Où est ta voiture ?»«
Sur la piste forestière, plus simple pour décharger tout ça. »
« Tu connais tous les secrets de Mount Pleasant ?»
sourit Alaska.
« J'adore que tu m'emmènes ici ce soir. »«
Une page se tourne dans cette ville ?» dit Patricia.
« Oui. »«
Et Walter ?» demanda Patricia. « Il ne se doute de rien ?»«
Il m'a surprise tout à l'heure, »
confia Alaska.
« Je suis retourné à l'appartement vers 17h pour récupérer quelques affaires. Il était seul au magasin, je ne pensais pas me faire prendre. Mais il est arrivé à l'improviste. Je ne me suis pas dégonflé. » Je lui ai dit que je le quittais. Il a dit que si je partais, il me dénoncerait. J'ai répliqué que je ne le craignais plus et que je m'étais débarrassé de la montre. Il est devenu livide. Il est allé vérifier dans la cachette et il est revenu furieux et s'est écrié « Où est la montre, salope ?» Je lui ai répondu que ça faisait un bout de temps qu'elle n'était plus là et je suis parti. Il m'a rattrapé sur le pas de la porte et a pointé vers moi un doigt menaçant. « Je te donne 48 heures pour retrouver la raison. Si tu n'es pas de retour dimanche soir, j'appelle les flics. »
« Mais dimanche soir, on sera en sécurité au Costa Rica, » sourit Patricia. Alaska lui sourit en retour. Elles s'embrassèrent. La soirée fut romantique à souhait. L'air était frais, mais les deux femmes se tenaient chaud, enlacées l'une contre l'autre, enveloppées dans une épaisse couverture. Elles étaient bien. Tout en mangeant, elles burent une bouteille de champagne, puis une autre. Elles parlaient du voyage qui les attendait. Elles s'envoleraient le lendemain après-midi pour le Costa Rica. Elle dormirait ce soir dans un hôtel de la région, puis demain, elle rejoindrait l'aéroport de Boston pour prendre un avion à destination de San José. Vers 23h30, Alaska se leva pour faire quelques pas sur la grève et fixa les eaux du lac.
« C'est encore plus beau la nuit, »
dit-elle. Ce furent ses derniers mots. Un coup effroyable s'abattit soudain sur l'arrière de son crâne. Elle s'effondra.
Aussitôt que je lui ai porté le coup, je me suis effondré à mon tour,
nous raconta Patricia.
Je me suis mise à sangloter. Je sentais la nausée monter en moi. Je ne réagissais pas du tout comme avec Eleanor. J'étais incapable de réfléchir. Tout ce que je voulais, c'était m'enfuir. Je décidai de laisser le corps là et de partir. Je me suis débarrassé de la matraque qui était couverte de sang. Je l'ai lancée du plus fort que j'ai pu dans le lac.
Patricia se tut soudain. Comme si elle avait tout dit. D'ailleurs, elle ajouta
« Voilà comment je l'ai tué. Vous savez tout. »
« Attendez, » s'étonna Galwood. « Il manque la fin de l'histoire. Qu'en est-il du pull d'Eric Donovan et du message retrouvé dans la poche d'Alaska ?»
Patricia eut un sourire triste. « Je peux vous le raconter, mais cette mise en scène n'était pas mon idée. C'était celle d'Alaska. »
Alaska ?
Patricia acquiesça.
Vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a quelques instants de ce 22 mars 1999, le jour où j'ai été obligé d'avouer à Alaska que j'avais tué Eleanor.
Oui, mais quel lien ?
Vous allez comprendre.
22 mars 1999. Dans la chambre d'hôtel, Patricia venait d'avouer à Alaska qu'elle avait tué Eleanor Lowell. Alaska était sous le choc. Elle était proche de la crise de nerfs. Elle alternait cris, larmes et accès de rage. Elle répétait à Patricia
« Tu te rends compte de ce que tu as fait ?»
Et Patricia finit par lui répondre « Je l'ai fait pour toi !»«
N'essaie pas de me mêler à ça !»
hurla Alaska.
« Je ne t'ai rien demandé. Tu l'as jetée vivante dans ce puits, tu es un monstre !»
Patricia essayait de prendre Alaska contre elle pour la calmer, mais Alaska la fuyait. Elle lui disait que ses mains avaient tué. À plusieurs reprises, elle dut aller vomir. Puis cette phrase en boucle, encore et encore.
« C'est pas vrai, mais c'est pas vrai !»
Vers 1 heure du matin, comme Alaska ne se calmait toujours pas, Patricia lui proposa de prendre un somnifère. Elle en avait toujours avec elle depuis la tragédie du 30 août. Elle ne pouvait plus dormir sans. Alaska, après quelques réticences, prit finalement un cachet et s'endormit comme une masse. À ses côtés, dans le lit, Patricia était restée éveillée toute la nuit. Elle était terrifiée. Le lendemain, lorsqu'Alaska se réveilla enfin, elle vint se blottir contre Patricia. Alaska lui demanda pardon pour sa réaction de la veille. Elle murmura à Patricia, la couvrant de baisers.
« Ne t'inquiète pas, on n'en parlera plus jamais. Tout est oublié. »
Elles restèrent longuement au lit. Alaska redoublait de tendresse. Elle répétait à Patricia que tout était oublié. Mais si tout était oublié, pourquoi en parlait-elle sans cesse? Patricia était dévorée par l'angoisse. Elle regrettait amèrement d'avoir révélé son secret à Alaska. Mais comment aurait-elle pu dissuader Alaska de téléphoner à la mère d'Eleanor? Puis soudain, Alaska eut cette idée.
« Ma chérie, » dit-elle à Patricia, « je sais comment on va te sortir de là. On va organiser un meurtre parfait. »«
De quoi parles-tu ? » demanda Patricia mal à l'aise.
« Tu sais comme j'aime les romans policiers. Le dernier que j'ai lu était vraiment pas mal. Histoire d'un meurtre parfait. Un type qui assassine sa femme et qui oriente les policiers sur une fausse piste menant à un coupable fabriqué de toutes pièces. » La fin du roman est assez cruelle d'ailleurs. Le mari échappe à la prison et c'est un employé de maison qui est injustement emprisonné. Et le vrai meurtrier d'expliquer au lecteur qu'un meurtre parfait n'est pas un crime dont on ne retrouve jamais le coupable, c'est un crime au cours duquel l'assassin parvient à faire porter le chapeau à un autre.
« Je ne vois pas où tu veux en venir, » dit Patricia.
« On s'arrange pour que Walter soit désigné coupable du meurtre d'Eleanor. Je récupère un vêtement à lui et on le jette dans le puits avec le cadavre. On laisse également à Vinyl Heaven une trace de son passage, comme un élément qui permettra aux enquêteurs de remonter à sa voiture.
« Comme quoi ?» demanda Patricia.
« Un morceau de phare, par exemple. On lui casse son phare maintenant. Sa voiture est dans le parking. On ira déposer des morceaux de phare sur le parking de la maison de Vinyl Heaven. Moi, je dirai à Walter que j'ai eu un accrochage. Il ne se doutera de rien. Quand on part d'ici le 2 avril, on fait un crochet par Salem. Je vais rendre visite à la mère d'Eleanor. Et je lui fais part de mes doutes sur Walter. Walter était présent à Salem, l'été de la mort d'Eleanor. Tout collera. Pendant ma visite chez eux, je prétexte d'aller aux toilettes et je cache dans la chambre d'Eleanor une des lettres « Je sais ce que tu as fait ». La mère d'Eleanor m'a dit qu'elle était en train de mettre de l'ordre dans la chambre de sa fille. Elle va forcément retrouver cette lettre. Ça va l'inquiéter. Elle va en parler aux flics et mentionner Walter dont je lui aurais parlé. Les flics vont remonter à lui. J'aurais pris soin, avant de quitter l'appartement de Walter, d'y cacher les deux autres lettres que j'ai imprimées. Les flics penseront que Walter menaçait Eleanor. Toutes les preuves seront là. Walter ne pourra rien faire. Il sera condamné pour le meurtre d'Eleanor. On sera débarrassé de lui pour de bon, et toi, tu ne risqueras plus rien.
Patricia eut l'air désemparée.
Merci, ma chérie. Merci du fond du cœur. Mais il vaut mieux que tu restes à l'écart de tout ça.
Puis quel est le lien entre Walter et Vinyl Heaven?
Ça ne fonctionnera pas. Mon ange, je voudrais juste qu'on oublie toute cette histoire, si tu veux bien.
Bien sûr, on fera tout comme tu veux. On n'en parlera plus jamais. On oubliera tout.
Je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi.
À ces mots, Alaska s'éclipsa pour prendre une douche. Aussitôt qu'elle entendit l'eau couler, Patricia se figea. Alaska venait de réveiller des visions de cette nuit du 30 août. Patricia se revoyait traîner le corps d'Eleanor jusque dans la voiture, composer ce message d'adieu et l'envoyer à maman portable. Elle entendait encore ses coups sourds contre la carrosserie à la station-service de Portland. Elle se souvenait du visage ahuri d'Eleanor lorsqu'elle avait ouvert le coffre. Le bruit du corps quand il était tombé dans la fosse du puits. Pendant quelque temps, elle avait réussi à oublier tout ça. Elle voulait oublier de nouveau. Mais elle ne pourrait plus oublier. Plus maintenant qu'Alaska était au courant. Patricia était désormais condamnée à une vie d'angoisse. Sa liberté dépendrait du silence d'une fille de 22 ans. Comment pouvait-elle être certaine qu'Alaska garderait son secret? Et que se passerait-il si elles se séparaient un jour, si leur amour n'avait été qu'une passade? Patricia essuya une larme. Elle regarda encore la photo d'Alaska et elle à New York, puis elle reprit.
Je sais mieux que quiconque ce qui attend un détenu dans une prison. Je mesurais que ma fragile Alaska pouvait me condamner à une vie d'enfermement dans quelques mètres carrés, une vie de maltraitance. Ce 23 mars 1999, je me suis efforcé de faire bonne figure. Nous avons parlé de notre départ pour l'Amérique centrale. Nous avons parlé de l'avenir ensemble. Je me suis forcé à lui faire l'amour. Après le déjeuner, Alaska a voulu absolument m'emmener dans un endroit très spécial, le seul endroit où elle s'était sentie bien à Mount Pleasant. Elle m'a conduit à Gray Beach. C'est comme ça que j'ai découvert cet endroit. On est resté sur la plage un moment. Comme j'avais froid, je suis remonté la première. Sur le parking, en voyant la Ford Taurus noire qu'Alaska conduisait, j'ai su que je n'avais pas d'autre choix que de la tuer. Ma petite Alaska, si douce, si parfaite, mais trop curieuse. J'avais finalement trouvé plus fort que notre amour, ma liberté. J'allais la tuer et appliquer à la lettre les consignes du meurtre parfait qu'elle m'avait dicté quelques heures plus tôt. La Ford n'était pas verrouillée. Je profitais qu'Alaska ne soit toujours pas là pour fouiller l'habitacle. Je cherchais un objet que je pourrais laisser à proximité du cadavre pour que les enquêteurs remontent à Walter. C'est en ouvrant le coffre que j'ai trouvé ce dont Alaska m'avait parlé le matin même, un vêtement. Un pull de taille homme appartenant forcément à Walter. Un pull gris portant l'inscription MU. J'ai pris le pull et je l'ai caché dans ma voiture. Alaska est apparue sur le parking quelques instants plus tard. Je lui ai alors tendu deux de ses feuilles « Je sais ce que tu as fait ». « Tiens, lui dis-je, cache-les à l'appartement. Arrange-toi pour que Walter ne les trouve pas, mais que les flics tombent dessus quand ils fouilleront son appartement. » Alaska a eu un sourire éclatant. « Tu vas suivre mon plan ?»« Oui, lui répondis-je. Je garde la troisième feuille avec moi pour que nous l'ayons sous la main lorsque tu iras voir Madame Lowell le 2 avril. » Alaska était très fière. Elle m'a embrassé. Elle m'a promis que grâce à son plan, je serai en sécurité. Après ça, j'ai prétendu devoir retourner à Boston pour qu'elle s'en aille. « Hâte d'être dans 10 jours », m'a dit Alaska en partant. Elle a pris la route de Mount Pleasant.
« Et c'est ce même 23 mars, » comprit Galwood, lorsque Alaska est retournée à Mount Pleasant, qu'Eric l'a vu se garer sur la rue et il est allé lui demander de récupérer son pull dans le coffre de la Ford de Walter. Eric nous a dit qu'après avoir réclamé ce pull à Alaska une première fois le 22 mars, il avait ensuite téléphoné à Walter qui lui avait indiqué que le pull se trouvait dans son coffre. Ce 23 mars, en voyant la Ford Taurus, Eric suit donc les indications de Walter. Sauf qu'à ce moment-là, le pull n'y était plus. C'est vous qui l'aviez, Patricia. Vous pensiez qu'il appartenait à Walter.
Patricia acquiesça.
Ça a été ma première erreur. Lorsqu'Alaska a quitté Gray Beach, je savais que c'était là que je la tuerais 10 jours plus tard. Vous savez, j'ai côtoyé beaucoup de criminels dans ma vie. Tous s'accordent sur le fait que, lors d'un crime grave, la première fois est difficile, mais elle constitue un cap qui, une fois dépassé, se laisse franchir à nouveau aisément. Je ne dis pas que ce fut facile de tuer Alaska, je dis que la décision fut facile à prendre. Ce 23 mars 1999 à Gray Beach, je sus que c'était ici que je tuerais Alaska. Je voulais un endroit beau, je voulais que ça se passe bien. Ne surtout pas répéter l'ignominie d'Eleanor que j'avais dû transporter jusqu'à Vinyl Heaven. Ce jour-là, j'avais faim de quitter Gray Beach pour y revenir quelques instants plus tard et explorer les lieux. Ce jour-là, suivant les consignes de ma petite Alaska, j'ai mis au point mon meurtre parfait. J'avais découvert la piste forestière qui me ramènerait à la route 21. Ce serait l'endroit parfait pour y laisser les débris du phare de la voiture de Walter. Il y avait également cette caravane abandonnée dans laquelle je pourrais dissimuler le pull de Walter.
Les enquêteurs le retrouveraient sans difficulté, sans que cela semble trop flagrant. Et la note d'Alaska « Je sais ce que tu as fait », que je glisserais dans sa poche après l'avoir tué, conduirait les enquêteurs sur la piste d'une vengeance. Eric parlerait forcément de la montre d'Alaska à la police, et la montre lirait Alaska, puis Walter, au cambriolage. Et comme Alaska avait dit à Eric de ne surtout pas parler de la montre à Walter, la boucle serait bouclée. Walter serait fait comme un rat. Je suis rentré à Salem, confiant en mon plan. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que les circonstances m'étaient favorables. Benjamin donnait une conférence le 2 avril au soir à Kenahan. Il n'arrêtait pas de s'en vanter. Je savais donc qu'il n'y aurait personne à Vinyl Heaven ce week-end-là. Ce qui me donna l'idée de récupérer les voitures de Benjamin pour qu'on ne repère pas la mienne à Mount Pleasant. Même en prenant toutes les précautions, on n'était pas à l'abri d'un témoin. C'est ainsi que le jeudi 1er avril 1999, je quittais Salem pour me rendre sur l'île de Vinyl Heaven. Et sur le ferry qui me ramenait avec la Chrysler bleue sur le continent, je sentais la nervosité monter en moi. Dans 24 heures, j'allais assassiner ma petite Alaska. Patricia venait d'asséner à Alaska un violent coup de matraque. Le corps de la jeune femme gisait sur la berge, du sang coulait de son crâne. Patricia se sentait défaillir, mais elle devait tenir bon. Elle devait mettre son plan à exécution. Ne sachant que faire de son arme, elle s'en débarrassa dans le lac. Il serait idiot de la garder sur elle et risquer de se faire prendre en cas d'un banal contrôle routier.